Débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour, heureuse de vous retrouver après ma petite fugue de la semaine dernière. Bonjour Francis Laloupo.
Ce fut une belle fugue, Liliane, mais on vous a retrouvé. Heureusement, vous êtes aujourd'hui.
Grâce au drone que vous avez envoyé à mes trousses, ces drones m'ont repéré. Absolument. Et voilà, je suis là.
Les auditeurs m'en remercient d'ailleurs. D'accord. Alors, premier sujet, évidemment, dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio, le Mali. Le Mali avec la crise politique, comment trouver une issue à cette crise politique. Le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, durcissent le ton et maintiennent la pression sur les dirigeants maliens.
En effet, Francis, ce vendredi, au moment où nous enregistrons cette émission, les partisans du M5-RFP se préparent à nouveau. Ils sont déjà d'ailleurs dans la rue au moment où on enregistre Maprenton, dans la capitale Bamako, pour protester contre le pouvoir malien. Selon eux, le président Ibrahim Boubacar Keïta ne peut plus diriger le Mali. Dixit Choguei Kokalai Maïga, ancien ministre du président Keïta, désormais passé dans l'opposition. Conséquence, les adversaires d'Ibeka rejette toutes les propositions de sortie de crise présentées par ce dernier. Le président Keïta et l'imam Diko, qui est le principal visage du mouvement de contestation, sont-ils en mesure de se parler sincèrement afin de trouver une solution à la crise politique au Mali? Comment décrisper l'atmosphère particulièrement tendue depuis plusieurs semaines? Nos invités décrypteront.
Deuxième sujet, la Côte d'Ivoire qui observe depuis jeudi un deuil national de 8 jours après la mort mercredi dernier de son premier ministre Amadou Gan Coulibaly. Une question, Liliane, au cœur de cette actualité, qui pour remplacer le candidat du RHDP, le parti présidentiel?
Je n'ai pas été, Francis, une bonne élève en mathématiques, mais votre question ressemble bien à une équation du second degré. Une véritable énigme, même si le secrétaire exécutif du RHDP a d'ores et déjà affirmé, restons en mathématiques, affirmé, disais-je, que la probabilité pour que l'actuel président Alassane Ouattara, qui avait fait du défunt son dauphin, n'est pas nulle. Sera-t-il donc désigné par le RHDP pour remplacer celui qui devait être son successeur? Ou alors le choix sera-t-il porté sur un autre et pourquoi pas une autre candidate et pourquoi? Donc, devinette et analyse lors des débats.
Et un dernier sujet, le Cameroun, avec des débuts de discussions entre gouvernement et des leaders sécessionnistes anglophones. Des discussions évoquées, mais qui manifestement embarrassent les autorités camerounaises, Liliane.
Tout est parti, Francis, d'un tweet de Julius Ayuktabe, président autoproclamé de l'Ambazonie, c'est le nom de l'état virtuel des séparatistes anglophones, affirmant que des contacts ont été pris avec des émissaires du gouvernement en vue de discuter d'un cessez-le-feu dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. En réaction, le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a déclaré dans un communiqué que l'information donnée par le leader sécessionniste Ayuktabe n'est pas conforme à la réalité, tout en réaffirmant, je cite, la disponibilité du gouvernement à rechercher des solutions pacifiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, notamment par le dialogue. Que faut-il donc comprendre? Nous en parlerons avec nos invités que vous nous présentez, Francis.
Oui, notre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone depuis Bamako, Soumaïl Louboubey Maïga, ancien Premier ministre du Mali. Monsieur Premier ministre, bonjour.
Oui, bonjour Francis.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour,
merci beaucoup, bonjour, Monsieur le Premier ministre, d'être là avec nous. Et un confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Abidjan, Félix Boni, directeur éditorial du groupe Weblogi, groupe constitué par une dizaine de sites d'information en ligne en Afrique de l'Ouest. Félix Boni, bonjour.
Bonjour Francis.
Merci, il est bien là, on s'en réjouit. Voilà pour le plateau, Liliane, un premier sujet.
Oui, l'opposition malienne réunie au sein du M5 a maintenu son appel à manifester ce vendredi après avoir rejeté l'offre faite dans la nuit de mercredi par le président Ibrahim Boubacar Keïta d'un accord politique de rassemblement national pour sortir de la crise dans laquelle le Mali est plongé depuis des semaines. Elle demande toujours la démission du président Keïta. Écoutez Oumar Mariko, le président du parti Sadi au micro BBC Afrique de Armand Mouko Boudombo.
À l'analyse du discours, il aurait mieux fait de se taire, parce qu'il a mis plus de Maliens en colère, parce que le discours est complètement vide et largement en deçà de l'espoir de ceux-là même qui avaient quelques illusions quant à la capacité de M. Ibrahim Boubacar Keïta de pouvoir s'asseoir et d'échanger avec le peuple malien.
Qu'est-ce que vous reprochez au discours d'Ibrahim Boubacar Keïta?
Ibrahim Boubacar Keïta n'a dit aucun mot de compassion pour les massacres qui ont lieu le jour même où il faisait le discours. Aucun mot de compassion.
Ibrahim Boubacar Keïta propose par exemple le remembrement du Conseil constitutionnel, un gouvernement d'union nationale jusqu'en 2023 et qui serait dirigé par le Premier ministre actuel Bobo Cissé.
C'est la rigolade. Le problème du Mali ne réside pas dans des gouvernements d'union nationale. Le problème du Mali réside dans le fait que notre pays est en train de couler et il faut donner des réponses fortes. Le problème, il est à ce niveau.
Il annonce une mission de la CEDEAO pour discuter avec vous.
Il faut que la CEDEAO arrête de se mettre au service des chefs d'État africains. C'est la CEDEAO elle-même qui a écrit, noir sur blanc, que la mauvaise gouvernance a égale valeur que le coup d'État militaire. Alors, on est dans quoi, là, finalement ?
Alors, vous dites qu'un dialogue n'est plus possible avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement ?
Son départ.
Et qui le remplace par quel mécanisme ?
Le peuple malien trouvera le ressort pour ça. Choisir ses mères enfants et continuer à se gouverner.
Monsieur le Premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga, quel commentaire vous inspire les propos de l'opposant Omar Mariko que vous venez d'entendre ? La porte du dialogue semble fermée ?
Non, je pense qu'en fait, quand on écoute les différentes parties, toutes les parties veulent le dialogue. Maintenant, apparemment, les termes du dialogue ne font pas consensus, ou bien les propos qui sont tenus là par chacune des parties, les propos ne se rencontrent pas. Sinon, ce que je comprends bien, c'est que le M5 avait été reçu par le président à sa demande. Et ils sont sortis de cette audience assez remontée parce que le président n'a pas répondu à leur mémorandum qui, comme Mariko l'a rappelé tout à l'heure, exige sa démission, la mise en place d'un gouvernement de transition dirigé par un premier ministre choisi par le M5, qui soit un premier ministre de plein pouvoir, comme on dit ici. Et puis, il y a beaucoup...
Avec des pouvoirs limités du président de la République.
Oui, avec des pouvoirs limités pour le président au cas où il resterait en place. Donc, je crois que c'est un peu cela. C'est-à-dire qu'il faut probablement que l'ensemble des acteurs, à un moment donné, aient le courage de s'asseoir et de discuter clairement, sincèrement, franchement sur les différents points. Tant il est vrai que s'il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que le pays traverse une situation extrêmement difficile, qui est à la fois difficile au plan interne, mais qui est difficile aussi dans l'impact qu'elle peut avoir sur la sous-région, notamment en matière de sécurité, par rapport aux menaces qui pèsent sur l'ensemble des États de la sous-région. Donc c'est un peu cela. Je crois qu'il y a une insatisfaction par rapport aux différentes prises de parole du président, dont tout le monde a estimé qu'elle était un peu en deçà des revendications qui sont formulées depuis maintenant plus d'un mois, non seulement par le M5, mais aussi par beaucoup d'autres citoyens. Donc, je crois que c'est ça le fond du problème.
Francis ?
Oui, alors, Soumaïlou Boubey Maïga, en tant qu'ancien Premier ministre et aussi en tant que grand acteur de la vie politique malienne, quelle partition pouvez-vous jouer, vous, face à cette crise hein, qui prend des allures bien singulières, comme vous l'avez dit ?
Oui, moi, je suis à la fois observateur et acteur parce que il se trouve que parmi les revendications autour desquelles la mobilisation se fait, je pense que la revendication qui rassemble tout le monde, c'est vraiment celle relative au processus électoral. J'ai trouvé qu'après les élections législatives, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est ça qui a provoqué, je crois, une grave crise au sein de la population et une grave crise de confiance dans les institutions. Parce que pour résumer, c'est que la Cour a eu à revenir totalement sur des résultats qui avaient été proclamés par l'administration territoriale, mais sur dans une démarche qui a été jugée totalement incohérente. Hein, parce que nous avons, par exemple, un collectif d'ONG qui observait les élections, qui avait relevé à juste titre que parmi les incohérences, quand on voit le nombre de centres de vote, du bureau de vote censé avoir été annulés par la Cour, selon elle-même.
Oui.
Et qu'on compare avec le nombre de bureaux de vote réellement annulés, ben on passe du simple au double. Nous, notre parti, nous considérons que nous avons été l'une des principales victimes dans deux des plus grosses localités. Il y a une des localités où nous avions gagné avec 11 000 voix d'écart.
Oui.
Au niveau de la Cour, ils ont supprimé, ils ont fait beaucoup de suppressions de voix.
Oui.
Pour déclarer la partie adverse vainqueur. Mais quand nous avons refait les calculs sur la base des chiffres donnés par la Cour elle-même, nous étions toujours en avance de 171 voix. Et quand nous avons saisi la Cour pour qu'elle corrige son arrêt en faisant recours à un article de son règlement intérieur qui l'autorise à corriger les erreurs matérielles, mais elle a considéré que cette erreur arithmétique ne faisait pas partie des erreurs matérielles. Et donc, le processus électoral a créé une profonde défiance envers les élections d'une manière générale, parce que, pour une fois, ce n'est pas les états-majors de partis qui se sont rebellés les plus vite, ce sont les populations elles-mêmes, dans les localités où il y a eu changement de résultats, qui se sont mobilisées et qui ont estimé que leur vote a été confisqué. Dans une localité comme Sikasso, il y a eu deux morts à la suite de ces manifestations-là.
Monsieur le Premier ministre.
C'est vous dire à quel point il y a une protestation assez vigoureuse, assez vive contre les résultats. Quoi.
Oui.
Et je crois que le vrai problème que nous avons actuellement, au-delà des revendications qui sont posées, c'est comment ramener la confiance dans les institutions et comment ramener les institutions à être plus crédibles aux yeux des populations, parce qu'autrement, s'il y a une défiance envers la Cour constitutionnelle, par exemple, qui est quand même un élément essentiel dans le processus électoral, et je crains fort que nous n'ayons plus d'élections qui soient crédibles ou que les populations vont considérer comme crédibles. Donc, c'est ça le vrai problème.
Justement, monsieur le Premier ministre, dans le but de résoudre ce contentieux électoral, le président Ibrahim Boubacar Keïta a engagé en début de semaine des consultations avec des candidats malheureux qui estimaient avoir été spoliés de leur victoire. Et à cela, le chef de l'État a fait une étrange proposition, les faire nommer au Sénat en lieu et place de la place de député à l'Assemblée nationale. Proposition donc a été rejetée par les personnes concernées. Est-ce que c'était de bonne politique, selon vous, de la part du chef de l'État de faire une telle proposition à ceux qui dénoncent ces irrégularités?
Oui, mais comme vous l'avez indiqué vous-même, c'était une proposition relativement étrange parce que le Sénat n'existe pas d'abord. Le Sénat, c'est la création du Sénat envisagée dans l'avant-projet du texte qui doit amener à la révision constitutionnelle. Or, ça fait 20 ans que nous n'arrivons pas à faire la révision de la Constitution. Et même si c'était le cas, il n'est pas évident que la disposition qui autorise le président à nommer une partie des sénateurs, que cette disposition soit retenue. Donc, en tout état de cause, si le problème n'est pas réglé. Donc, cette proposition, comme un certain nombre de déclarations du président, est interprétée comme une manière d'éviter de prendre les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire aller dans le sens que la CEDEAO a préconisé, par exemple, c'est-à-dire de reprendre complètement les élections dans les circonscriptions où il y a eu des contestations, ou bien que le président recourt à l'article 42 de la Constitution qui lui donne les prérogatives pour dissoudre
l'Assemblée nationale
en entier pour reprendre les élections. Bon, bien sûr, il y a toujours le problème de la question de dire est-ce qu'il faut sanctionner toute l'Assemblée pour quelques députés mal élus, une trentaine. Mais toujours est-il que l'impression générale, c'est que le président n'arrive pas à prendre les décisions qui pourraient qui doivent aller dans le sens d'une annulation partielle ou totale des élections.
Et monsieur le Premier ministre, dans ce cas, vous parliez tout à l'heure de la nécessité de trouver une issue à cette crise. Quelles sont les issues possibles? On a entendu tout à l'heure Omar Moriko discréditer en quelque sorte même la CEDEAO qui s'est impliquée dans cette crise. Quelles sont les issues possibles?
Non, moi je pense que les propositions de la CEDEAO avaient été relativement bien accueillies par une grande majorité de la population parce qu'elles permettaient de couper la poire en deux et d'apporter une solution. Bon, qui ne satisfait pas tout le monde, en particulier ceux qui seraient obligés de quitter l'Assemblée ou d'aller se soumettre de nouveau aux urnes.
On a écouté la réaction tout à l'heure de Omar Mariko qui semblait dire que la CDAO est là pour soutenir les chefs d'État, mais pas les peuples.
Non, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, peut-être qu'elle n'a pas bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est que tant que la question électorale n'est pas vidée, je pense que ça va être difficile que les esprits se calment. Et ça va être difficile qu'il y ait une confiance dans la capacité des dirigeants, en l'occurrence du président de la République, à prendre les décisions qui répondent aux revendications. Quoi.
De manière concrète, quand vous dites que le contentieux post-électoral n'est pas vidé, quelle est votre démarche? Si vous aviez à remettre au président de la République
une feuille de route pour sortir de la crise,
ce serait laquelle?
Moi, ce que j'ai proposé, c'est que le président recourt à ses prérogatives constitutionnelles pour dissoudre l'Assemblée, ou à tout le moins d'aller dans le sens préconisé par la CDAO. Bien sûr, il y a eu des prises de position pour dire que les propositions de la CDAO ne peuvent pas prospérer dans notre cadre national parce que notre législation ne prévoit pas d'élection partielle, sauf dans les cas de démission ou de décès. Mais la réponse est que une fois qu'on parle des recommandations et des décisions de la CDAO, nous ne parlons plus de nos lois nationales. Moi-même, j'ai eu à
superviser. Ça devient un consensus politique.
Oui, et puis quand même, les décisions de la CDAO sont au-dessus de nos lois nationales. Même si en matière électorale, ils n'avaient pas fait de tests particuliers. Moi, j'ai supervisé les élections en Guinée-Bissau, mais devant le jeu de ping-pong auquel on avait assisté, mais c'est une décision politique de la CDAO
qui a
fini par imposer l'élection de Sissoko. Parce qu'on s'était retrouvé dans le même type de situation où la structure chargée des élections avait donné des résultats qui devaient être entérinés par la Cour suprême, Cour suprême, en permanence, a fait du dilatoire jusqu'à ce que la CDAO ait perdu patience et décidé qu'il fallait
entériner l'élection de Oumar Sissoko Mbalo, annoncé par la commission électorale.
Je pense que ce que j'ai proposé, c'est que le président doit prendre une décision sur la question électorale.
Merci.
Parce que, vous voyez bien, c'est une situation qui concerne les localités les plus peuplées. C'est pour ça que les contestataires parviennent à mobiliser du monde. À Bamako, ce sont les trois communes les plus peuplées. À l'intérieur du pays, il y a deux localités qui sont parmi les trois qui donnent le plus grand nombre de députés. Et donc, à chaque rassemblement, ils alimentent les rangs de la contestation. Et tant que cette contention-là n'est pas vidée, je pense que la confiance qui doit régner entre les citoyens et les institutions ne pourrait pas s'établir.
Mais pour autant, en 30 secondes, Monsieur le Prémis, est-ce que c'est réaliste de demander la démission d'un président élu?
Non, ça, je crois que maintenant, il y a un consensus quand même sur le fait que plus personne ne demande, y compris le M5 d'ailleurs, qui avait fini par accepter.
Ah si, ils ont remis cette revendication au centre de leur mouvement.
C'est devant leur insatisfaction sur les dernières prises de parole du président, c'est là qu'ils ont ramené ce point dans les contestations. Sinon, ils étaient d'accord pour renoncer à cela. Du reste d'ailleurs, il faut aussi dire qu'objectivement, ils ne sont pas les seuls acteurs politiques et sociaux du pays.
Merci.
Et donc, voilà. Et quand vous regardez bien d'ailleurs, la plupart de ceux qui dirigent le mouvement, ce n'est pas des gens qui ont participé au processus électoral en tant que tel.
Merci. On marque une pause obligatoire. Une pause obligatoire.
Le débat. BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Avec notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Bamako, Soumaïlou Boubey Maïga, ancien Premier ministre du Mali, et notre confrère invité au téléphone depuis Abidjan, Félix Boni, directeur éditorial du groupe Web Logi. Monsieur le Premier ministre, alors je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas tout à fait répondu tout à l'heure. Je vous ai demandé Et quelle pourrait être votre partition hein, dans cette crise hein, quel rôle vous pourriez jouer? Vous avez préconisé évidemment la dissolution de l'Assemblée nationale, mais j'ai envie de vous dire, voilà, vous avez été le premier ministre quand même du président Ibeka. Qu'est-ce que vous pourrez lui murmurer à l'oreille hein, pour désamorcer cette crise?
Ce que je peux lui murmurer à l'oreille, c'est d'essayer de répondre en partie ou totalement à la revendication de ceux qui contestent, quoi. Et la principale revendication porte quand même sur le processus électoral. Et je crois honnêtement que, en dépit des observations qui peuvent être faites sur la non-conformité avec notre législation nationale, je pense que nous devons aller au moins vers la reprise des élections dans les circonscriptions à problème, comme on dit.
Merci.
Parce que tant que ça ne s'est pas fait, je pense que les frustrations des uns et des autres ne pourraient pas être absorbées, quoi. Parce que vous imaginez, par exemple, si vous prenez même la proposition que le président avait faite aux candidats spoliés, comme on dit, vous les imaginez retourner dans leur circonscription, en particulier là où il y a eu des morts, dire aux populations, vraiment, nous vous appelons à plus de calme, parce que nous serons nommés sénateurs dans 2 ans.
Un Sénat qui n'existe pas encore. Merci. On va écouter.
Voilà.
On va écouter Félix sur cette crise politique déclenchée il y a plus d'un mois au Mali. Les manifestants ont encore repris les rues vendredi à Bamako. Comment pensez-vous qu'on puisse sortir de cette situation? Est-ce que l'option proposée par le Premier ministre vous paraît être une piste intéressante, c'est-à-dire la dissolution de l'Assemblée nationale actuelle?
Ben, je pense que la solution est déjà bien trouvée par le chef d'État de la CEDEAO et reprise tout à l'heure dans le raisonnement du Premier ministre Maïga, parce que s'il y a des contestations, des contentieux en matière électorale, que cela peut causer, trouver l'ordre public et la quiétude du pays, je pense que la solution, elle est simple, c'est de reprendre le scrutin dans les zones où il y a des contestations, pour ne pas aussi spolier ceux qui ont été élus sans souci de leur siège. La solution réside dans la reprise partielle du scrutin dans les zones où il y a problème. Et je pense que c'est à cette solution que le président Ibeka devrait aller. Mais malheureusement, on a ce souci-là en Afrique de vouloir toujours préserver ses acquis, ses privilèges, et on veut toujours avoir une certaine majorité contre... peut-être la volonté de la population. Et donc le président Maïga hésite toujours à franchir le pas et malheureusement risque de plonger le Mali dans une situation qui crispe toute la route sous l'Ogion, parce que tous les pays aux alentours suivent ce qui se passe au Mali. Si le Mali aujourd'hui chute, tombe, c'est tout le monde qui devrait en avoir peur, parce que ce pays pourrait servir de base arrière aux terroristes pour pouvoir déstabiliser toute la sous-région, et on croise les doigts.
Monsieur le Premier ministre, alors vous avez beaucoup évoqué la question électorale, mais aujourd'hui ceux qui manifestent ce vendredi et à nouveau le mouvement, enfin le collectif M5, voilà, ils vont bien au-delà de la question électorale, parce que c'est tout le système aujourd'hui qui est fortement fustigé, dénoncé en tout cas, la gouvernance, la corruption, les mauvaises pratiques au sommet de l'État, la dégradation de la situation sécuritaire, la crise sociale larvée hein, dans plusieurs secteurs de l'économie nationale et de la vie sociale de votre pays. Est-ce que vous pensez quand même que, voilà, comment vous pourrez qualifier la situation aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans une impasse politique? Quel dialogue encore? Parce que, par exemple, voilà, certains, évidemment, prennent à nouveau un dialogue. Votre pays empile les dialogues depuis plusieurs années. Les résolutions du dialogue inclusif de décembre dernier n'ont pas été appliquées. Ibeka propose au gouvernement de l'Union nationale, on connaît les limites de ce remède. Alors, est-ce qu'il est encore possible, je dirais, de trouver une issue à une crise qui est une crise à étage, en quelque sorte?
Oui, oui, en fait, la crise électorale a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est pour ça que moi, dans les propositions que j'ai eu à formuler récemment, c'était de dire que, d'une part, le président devait prendre une décision concernant les propositions de la CEDEAO ou concernant ses propres prérogatives constitutionnelles. Et sur cette base, au lieu que nous allions directement à des élections nouvelles, tout de suite. Il fallait créer les conditions d'un consensus national plus structuré autour d'un accord politique qu'il peut proposer à l'ensemble des acteurs, et accord politique dont la feuille de route serait les conclusions qui ont réuni un maximum de un consensus majoritaire à l'occasion du dernier dialogue national inclusif, qui s'était déroulé quand même depuis les communes jusqu'aux régions avant d'arriver au niveau national. Et ces conclusions-là, c'était un, la révision de la Constitution, la relecture des textes concernant la Cour constitutionnelle, la relecture de la loi électorale pour que nous ayons un seul organe de gestion des élections, et la réorganisation territoriale pour que des nouvelles régions qui ont été créées pour certaines depuis maintenant 2012 puissent redevenir opérationnelles. Bon, et en tout cas, avec une feuille de route consensuelle. Et en ce moment-là, sur la base d'un accord politique qui réunit autour du président l'ensemble des acteurs politiques et sociaux, le pays pourrait retrouver un apaisement et une confiance dans les institutions sans lesquelles on ne pourrait pas avancer. Parce que, comme vous l'avez indiqué, la proposition de gouvernement d'union nationale dans nos pays, c'est interprété par les populations comme un énième partage de gâteaux entre les mêmes gens, sans que il y ait une plateforme réelle dans laquelle les populations se reconnaissent. Bon, c'est vrai que lors de sa dernière intervention, le président a proposé un certain nombre d'axes qui pourraient constituer la plateforme, la feuille de route d'un accord politique de rassemblement national. Mais tout cela, pour le moment, tombe dans l'oreille d'un sourd tant que la question électorale n'est pas réglée.
Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous-même, vous avez dû quitter vos fonctions il y a un an, je pense que c'était en avril 2019, après avoir subi la colère du président, notamment du Haut Conseil islamique, Mahmoud Diko, au cœur de la mobilisation aujourd'hui. Et à ce moment-là, il demandait avec ses partisans un changement de gouvernance. Que répondez-vous à ceux des Maliens qui affirment aujourd'hui que c'est l'imam Diko qui finalement dirige le pays, qui impose l'agenda politique?
Non, vous savez, bon, les situations sont relativement différentes parce qu'à l'époque, quand moi j'étais Premier ministre, parmi les manifestants, il y avait aussi des gens de la majorité, quoi. D'ailleurs,
tout à fait.
Diko a eu une formule assez savoureuse pour qualifier cette situation en disant que quand vous envoyez un mercenaire en mission, qu'il accomplit bien sa mission et qu'il lui reste encore quelques munitions et des armes, mais s'il n'est pas satisfait de la suite, peut-être de la récompense qui suit la mission, mais il retourne les armes contre ses commanditaires.
Bon, et d'ailleurs, vous êtes parti un peu avant le vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale,
oui, à
déposée par
bon,
les députés.
Les gens avaient essayé d'orchestrer une motion de censure.
Par l'opposition et soutenue par le député du RPM au pouvoir.
C'était d'ailleurs un cas unique dans notre histoire constitutionnelle, même dans d'autres pays, où les partis de la majorité s'associent avec l'opposition.
Donc vous savourez un peu votre revanche aujourd'hui ?
Non, pas spécialement. Je suis un peu chagriné pour le pays. C'est ça le plus important. À l'époque, moi, j'avais estimé que il n'était pas question que moi, je devienne un facteur de crise dans le pays. Et d'autant plus que c'est le président qui est élu. Le Premier ministre, il est en mission, c'est tout. Si les conditions ne sont pas réunies pour qu'il accomplisse sa mission, bon.
Et pour revenir très rapidement à la question, monsieur le ministre, nous reste une minute. Sur ce sujet, finalement, l'imam Diko, c'est lui qui impose ce qu'il veut au moment où il veut ?
Non, je pense qu'il y a... En fait, il y a un rassemblement d'opportunités, quoi. C'est-à-dire que les forces religieuses sont devenues ont une grande capacité de mobilisation, et beaucoup de forces politiques, malheureusement, leur sont satellisées. C'est ça.
Monsieur le Premier ministre, à vous écouter finalement, je ne sais pas, mais on a le sentiment que votre analyse, votre réflexion n'est pas très éloignée de ceux qui réclament désormais la mise en place d'une période de transition dans le pays jusqu'à la fin du mandat de l'IBK.
Bon, moi j'avais dit que Une fois que le président dissout, par exemple, il prend une disposition pour soit dissoudre l'Assemblée, soit reprendre les élections. Mais il faut observer une forme de transition dans laquelle nous passons à la relecture de nos textes pour les adapter, pour qu'elles répondent à un consensus national. Et avant que, dans 6 mois, on reprenne les élections et qu'on retrouve un jeu institutionnel qui rencontre l'assentiment de tous. Quoi.
Donc vous êtes favorable à la démission du président Keïta?
Ah non, non, pas du tout. C'est-à-dire que nous avons fait un communiqué pour dire que, un, les revendications qui sont formulées pour la plupart sont justes et légitimes. Deuxièmement, que nous étions absolument contre la démission du président de la République, mais qu'on encourageait ce dernier, en tant que garant de l'unité nationale, à user de ses prérogatives constitutionnelles pour apporter les
réponses. Vous pensez à rejoindre le M5?
Non, ce n'est pas dans notre agenda. Nous nous retrouvons sur certaines revendications, en particulier tout ce qui concerne la question électorale, parce que nous avons été spoliés, si je peux dire, dans certaines circonscriptions. Et nos députés, nos candidats spoliés d'ailleurs, ils sont mobilisés autour de cette question-là.
Merci.
Avec leurs électeurs et tout. Mais je pense que c'est... Tant que la question électorale n'est pas vidée, c'est le premier test, je crois, de leadership aussi pour le président. Je crois que, de manière assez claire pour moi, le leadership du président est plus ou moins interpellé, quoi, sur cette question-là.
Merci.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin Soumaïl Oubou-Beye Maïga, ancien Premier ministre du Mali, et notre confrère invité Félix Boni depuis Abidjan. On va parler de la Côte d'Ivoire justement, avec les RHDP, hein, le parti présidentiel endeuillé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rendu l'âme ce mercredi à l'âge de 61 ans, quelques jours après son retour au pays, après 2 mois passés en France. Pour raison médicale, le président Alassane Ouattara a fait part de son émotion à ses concitoyens face à la disparition de celui qu'il désigne comme un jeune frère et un fils. Parmi les fidèles, Amadou Gon Coulibaly aura collaboré pendant plus de 30 ans avec le président ivoirien. Et c'est tout naturellement que sa candidature à la prochaine présidentielle avait été promue par le président Ouattara. Le RHDP vient donc de perdre son candidat à moins de 4 mois de la prochaine présidentielle. Commande à ces conditions conjuguer le deuil avec les urgences d'une compétition électorale. On se tourne vers vous, Félix Boni, à Abidjan. Et d'abord, quel est le climat aujourd'hui au sein du RHDP, en attendant les obsèques nationales qui sont prévues? Est-ce que les questions politiques sont reléguées pendant quelques jours au moins au second plan face au deuil?
Au RHDP, l'heure est à la réflexion, à l'interrogation pour savoir qui éventuellement pourrait être le nouveau candidat à 115 jours des élections présidentielles. Et aujourd'hui, c'est la réflexion que tout le monde est en train de mener. Ce sont les questions que les gens se posent, parce qu'il faut le dire clairement, il ne faudrait pas se voiler la face. Il sera difficile pour le RHDP en ce moment précis de trouver un autre candidat de la trame du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont les qualités de technocrate, le leadership, tout ceci est reconnu par l'ensemble des militants et même des Ivoiriens de façon générale. Et donc le RHDP devrait pouvoir arriver à trouver une autre personnalité à 3 mois, c'est très juste, mais ce ne sont pas ces personnalités-là tout de même qui manquent. Finalement, les regards sont tournés même vers le président de la République, quand bien même quelques restrictions pourraient causer des soucis.
Liliane.
Oui, alors Wilfried, on parle beaucoup de Ahmed Bakayoko, vous-même vous dites qu'il y a d'autres candidats peut-être qui peuvent émerger, on parle aussi de Patrick Achille, le secrétaire général de la présidence, mais pourquoi pas une femme?
Alors pourquoi pas une femme? Il faudrait bien que cette femme, elle existe et qu'elle l'ait fait également, qu'elle l'ait véritablement.
Et le RHDP n'en compte pas, selon vous?
Quand on regarde au RHDP, je ne pense pas qu'il y ait une femme qui ait ce leadership capable de rassembler, de faire, de pouvoir
avoir Anne Ouloto, par exemple?
Oui, Anne Ouloto, peut-être elle gère bien son ministère, mais est-ce qu'elle a véritablement ce leadership pour pouvoir rassembler tout ce monde qui se retrouve, tous ces cadres qui se retrouvent au RHDP? Ce serait vraiment difficile de trouver une femme Et même, vous parliez tantôt d'Ahmed Bakayoko et de Patrick Kachi, je pense que là aussi, le débat se mène parce que le futur candidat devrait pouvoir sortir du cercle restreint du président de la République, évidemment, pour ne pas se retrouver dans le schéma angolais. Et donc, cela veut dire que Patrick Kachi, certes, a toute la carrure, la technologie.
Mais il vient du PDCI.
Mais c'est un transfert du PDCI et il est clair que le président ne pourrait pas éventuellement faire confiance à quelqu'un qui dont il ne maîtrise pas véritablement totalement l'agenda.
Et Ahmed Bakayoko,
il ferait bien l'affaire, c'est le fils du président comme Amadou Gon l'a été. C'est
quelqu'un et soutenu, disent certains analystes ivoiriens, par la première dame, Dominique.
Oui, oui, avec une relation très particulière, très une grande proximité avec la première dame. Cependant, on connaît un peu les déboires d'Ahmed Bakayoko ces dernières semaines avec son image qui a été un peu d'épée en noir avec cette histoire de drogue et même les attaques de l'armée qui font que certains l'ont traité un peu d'incompétent. Donc il y a beaucoup de sujets qui ces dernières semaines ne plaident pas véritablement en faveur d'Ahmed Bakayoko qui lui-même est plus ou moins surpris de se retrouver en fait dans cette posture de présidentielle. Il ne l'a jamais préparé véritablement. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il fait partie de ceux qui auraient pu préparer, cette ambition.
On va demander au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette équation particulière à laquelle le parti présidentiel doit faire face?
Oui, je dois d'abord dire que j'ai été personnellement très consterné par le décès de Amadou, parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et puis, dans nos fonctions de Premier ministre, nous avons noué des relations extrêmement étroites. Et on avait échangé le samedi dernier seulement, quand il est revenu le jeudi. Maintenant, je pense qu'au sein du RHDP, depuis le mois de mai, la réflexion incluait aussi la possibilité de...
Les capacités.
Que Amadou ne puisse pas aller... non pas à cause du décès qui est arrivé, que personne ne prévoyait, mais que peut-être sa santé ne lui permettrait pas. Et je crois que de ce point de vue-là, tous les regards se tournaient vers le président Ouattara pour qu'il y aille, quitte peut-être à ne pas aller jusqu'au bout du mandat, le temps de trouver un bon remplaçant pour faire une élection anticipée. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si le RSDP reste uni, mobilisé, il est capable de faire gagner, j'allais dire, n'importe quel candidat. Mais le seul candidat dont le choix ne poserait aucune interrogation, c'est quand même pour le moment le président Ouattara. Et donc, d'autant plus que c'est dans 45 jours qu'il devrait déposer la candidature. Je crois que c'est le 31 août.
Vous parliez, Monsieur le Premier ministre. Pardon, Francis, allez-y.
Non, je crois que vous allez poser la même question. Est-ce que, par exemple, l'hypothèse d'un retour dans la compétition électorale d'Alassane Ouattara peut être envisagée?
Oui, ben, tout à fait. C'est-à-dire que je crois que c'est la seule hypothèse qui ne susciterait aucune réaction.
On pourrait lui reprocher un revirement quand même. On pourrait lui reprocher un revirement.
Un débat à l'extérieur.
On pourrait lui reprocher un revirement. Lui qui avait renoncé justement à se représenter.
Mais ce sont des circonstances exceptionnelles. C'est-à-dire que là, encore que le président n'avait pas écarté l'hypothèse de candidat au cas où c'est.
Bédier se présenterait. Et il rappelait bien que.
Il y a eu cette situation-là qui. Et qui l'oblige quand même à prendre... Parce qu'ils sont obligés de prendre une décision rapide en plus.
Monsieur le Premier ministre, et justement sur ce que vous venez d'évoquer, la possibilité du président Ouattara à se présenter finalement, certains Ivoiriens avec lesquels nous avons discuté, ou j'ai personnellement discuté, vont jusqu'à penser que le choix de Amadou Ngon Coulibaly en fait répondait à une stratégie du parti. Et pourquoi ? Il disait le choix de Amadou Ngon Gordon Koulibaly, qui avait d'ailleurs fait quelques remous au sein du RHDP avec le départ notamment de Mabry Touakos, chef de l'UDPCI, que lorsque un parti aussi sérieux ou une coalition aussi sérieuse que le RHDP doit choisir son candidat pour une élection aussi importante, il doit quand même s'assurer de l'état de santé physique de son candidat et de sa capacité à pouvoir mener campagne. Et qu'en choisissant Amadou Ngon Koulibaly, le RHDP savait très bien quel était son état de santé et qu'il pourrait ne pas aller jusqu'au bout.
Oui, mais je crois que personne n'imaginait qu'il allait décéder quand même. Quoi. On savait qu'il avait une santé qui lui avait causé des soucis dans le temps, parce qu'en 2012, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, moi-même j'étais à Paris quand il est venu pour son opération, qui avait duré 7 heures, je crois, et voilà. Et puis, on savait bien que cela l'amenait.
Mais pourquoi l'avoir choisi, sachant très bien qu'il n'était pas, qu'il pourrait ne pas aller jusqu'au bout?
Elle avait la volonté du président de passer la main et de pouvoir assister, continuer d'assister la relève pendant une certaine période, parce qu'il ne sortait pas totalement des coulisses. Et puis, honnêtement, même s'il y a eu quelques dissonances à l'intérieur, comme cela arrive dans tous les partis, je pense que c'était un choix qui s'imposait quand même de manière assez logique, quoi.
Félix Bonny, alors on est quand même face à une situation très particulière en Côte d'Ivoire, hein, à moins de 4 mois de la présidentielle. Alors il y a le parti présidentiel aujourd'hui, donc 100 candidats, et une opposition voilà, dont la trajectoire reste encore insaisissable avec le PDCI et son candidat octogénaire, hein, Henri Konan-Bédié. Je ne fais pas de procès à l'âge, évidemment. Et il y a le FPI qui est toujours divisé, hein, puis Guillaume Soro qui est en exil sous le coup d'une lourde condamnation judiciaire. Quel scénario possible d'ici octobre prochain pour une compétition électorale, digne de ce nom? C'est une configuration très particulière à laquelle on assiste là.
Permettez-moi de revenir sur la question que Liliane a posée tantôt. Ce serait vraiment très cynique de la part de ces Ivoiriens qui penseraient que le choix d'Amadou Gon répondrait à une stratégie, parce que jusqu'au 5 mars, jusqu'à son choix, le 12 mars dernier, je crois que c'est un monsieur qui travaillait, bossait beaucoup, qui n'avait pas de soucis de santé, qui n'avait jamais manifesté de signes.
Très dévoué.
Oui, donc il était très dévoué, très engagé, il n'a jamais manifesté de signes de fébrilité, mais c'est juste qu'après son choix que tout le reste va se précipiter et jusqu'à ce qu'on en arrive au pire. Donc d'accord, ceux qui pensent ça, c'est vraiment cynique de leur part. Pour ce qui concerne la candidature du président Ouattara, effectivement, comme le Premier ministre Maïga vient de le dire, c'est le véritable ciment du RHDP, c'est l'option la plus favorable pour le RHDP. Cependant, il y a quand même des griefs sur cette candidature. Si en interne au RHDP, ça ne pose pas de problème, au-delà du RHDP, au niveau constitutionnel, cela pose un peu quand même souci, parce que le rédacteur même de la Constitution, notamment le ministre Cissé Bakongo, ministre conseiller juridique du président de la République, a eu à participer à des débats où il a dit catégoriquement que le président de la République, sur la base de l'article 83, ne peut pas se présenter parce qu'il était déjà élu au moment où la nouvelle Constitution a été soumise au vote. Ça veut dire que la loi n'étant pas rétroactive, cela ne peut pas prendre en compte lui. Il était déjà sur le compte de la Constitution passée qui reconduit le principe selon lequel le président de la République est élu pour 2 mandats et qu'il ne peut pas aller un 3e mandat.
Merci.
Et donc ces questions vont se poser de façon très cruelle en Côte d'Ivoire, et ça pourrait éventuellement aboutir à des situations pas trop trop souhaitables.
Merci
en ce qui
beaucoup.
Concerne les élections de...
Très rapidement, s'il vous plaît.
Les Ivoiriens aujourd'hui se posent la question qui va bien être notre président de la République, et je crois qu'ils vont être obligés éventuellement de choisir entre plusieurs mots, le moindre mal. Et personne aujourd'hui ne peut aujourd'hui prédire qui pourrait être le président, parce que même au niveau de l'opposition, c'est aussi problématique. Le FPI n'arrive pas encore à dégager une personnalité. Le PDCI avec son candidat qui a 86 ans, c'est aussi problématique. Après la mort d'Amadou Gon Koulibaly, pas une question de santé, les gens se posent encore la question de savoir, mais quelqu'un qui a 86 ans pourrait-il tenir un mandat jusqu'à 91
ans? Merci beaucoup. Merci, Félix.
Voilà.
Merci beaucoup. Beaucoup de questions dont nous aurons les réponses peut-être dans les semaines à venir. Francis, nous allons passer au dernier sujet, au pas de course. Et sans transition, c'est le Cameroun. Les discussions entre leaders sécessionnistes anglophones et le gouvernement autour de la crise politico-sécuritaire dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest Sud-Ouest ont-elles vraiment eu lieu? Oui, c'est ce qu'a annoncé un des leaders séparatistes détenu avec ses co-accusés dans une prison de Yaoundé. Ayouk Tabé précise que le 2 juillet dernier, neuf d'entre eux ont rencontré une équipe de la République du Cameroun afin d'initier, dit-il, un cessez-le-feu consécutif à l'appel des Nations Unies, alors que du côté des autorités camerounaises, on n'est pas affirmatif. Ce que dit le leader anglophone n'est pas conforme à la réalité, a souligné le gouvernement dans un communiqué. Alors, Monsieur le Premier ministre, pourquoi cette gêne qui semble caractériser le gouvernement camerounais? Est-ce que maintenir la discrétion, la prudence dans de telles circonstances est plus efficace plutôt que la transparence?
Bon, peut-être que le gouvernement camerounais a été gêné de n'avoir pas été à l'initiative de la communication. Ce qu'il aurait dû faire, parce que par les temps qui courent, ce n'est pas des choses qui se cachent. Et encore que, il est tout à fait dans l'intérêt du Cameroun, donc de l'État camerounais, d'engager un dialogue avec, avec les acteurs de cette région-là, et comme d'autres régions. Donc voilà, je pense que d'ailleurs, on sent bien que, tout en disant qu'il n'y a pas eu de rencontre, ils ont quand même dit qu'ils étaient aussi disponibles pour
tout à fait, pour le, rechercher des solutions pacifiques.
Voilà, voilà. Donc, je crois que dans tous les cas...
Mais souvent, dans ce cas, ce genre de figure des discussions, parfois se font discrètement. On a vu au Mali qu'il y a eu la même discrétion autour des contacts menés avec des leaders de groupes terroristes, notamment par Diankounda Traoré, le haut représentant du président Ibeka pour le centre.
Oui, mais là, ils avaient clairement dit qu'ils étaient prêts, le président Diankounda avait clairement dit qu'ils étaient prêts à négocier avec eux. Et le président Keïta, après, a confirmé la volonté de l'État malien de dialoguer, ou en tout cas d'échanger avec, avec ces groupes-là. Quoi.
Oui, notamment il y a Agagali et Amadou
Koufa. Nous ne pourrons pas faire l'économie dans nos pays d'éteindre tous les feux, tous les incendies possibles. Bien sûr, en respectant quand même les principes démocratiques, républicains et laïcs dans nos pays. Mais il y a beaucoup d'inégalités, notamment territoriales, dans nos différents pays. Et il n'y a que le dialogue et l'inclusivité qui peuvent nous permettre de les surmonter. Quoi.
Merci.
En fait, ce que vous dites, Monsieur le Premier ministre, c'est que c'est peut-être par là qu'il fallait commencer. Hein, et que, voilà, on a peut-être perdu du temps. Discuter avec les protagonistes, tous les protagonistes.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Surtout qu'on a bien vu que sur le plan strictement militaire, sécuritaire, c'était impossible de dérégler cette situation.
Il y a l'enlisement.
Oui, oui, tout à fait.
Félix Boni.
Félix, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Oui, peut-être avec cette question, selon Ayouk Tabé, le leader sécessionniste, ces contacts répondent à l'appel de l'ONU, dont le secrétaire général a demandé en avril un cessez-le-feu mondial dans tous les conflits en raison de la pandémie du coronavirus. Mais cela n'exprime pas une volonté réelle des sécessionnistes, peut-être aussi du gouvernement camerounais à de paix, une réelle volonté de paix.
Ben, c'est ce qu'on peut noter. Ça. Il y a cette volonté de part et d'autre de paix. Et je pense que le dialogue, comme l'a dit le Premier ministre, devrait pouvoir être priorisé pour une bonne fois s'asseoir et se parler, trouver des solutions, un peu comme la situation du Mali, se parler franchement et trouver des solutions courageuses pour en finir une bonne fois avec cette crise camerounaise qui date depuis Matusalem. Et aujourd'hui, c'est avec un peu de peine qu'on regarde ce qui se passe dans ce pays, un pays, deux peuples divisés par la langue et par la politique. C'est vraiment pas heureux de voir le Cameroun continuer à sombrer dans cette crise. Il faut saisir l'occasion pour en sortir une bonne fois pour tous.
Merci beaucoup. Le moment est venu d'écouter les messages de nos auditeurs postés sur notre page Facebook. Message recueilli et livré à présent par Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Mali Brahima Sam Dembélé affirme que la seule solution de sortie de crise pour le Mali est la démission du président Ibeka. Pour notre internaute de Bamako au Mali, Ibeka est réfractaire au dialogue. Il doit donc partir pour l'intérêt général du pays. De son côté, Thomas Ndengadina lui estime que la solution à la crise politique malienne est le dialogue. Mamadou Lamaranba lui s'interroge sur le sort de Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition malienne, enlevé il y a 3 mois. Il demande notamment ce sur quoi s'appuie l'État en place pour affirmer qu'il est toujours en vie. Barry Ousmane lui veut connaître la position de notre grand témoin dans cette crise sociopolitique que traverse le Mali, en sa qualité d'ancien premier ministre et ancien proche de Ibeka. Côte d'Ivoire, Dimran Tchandjoum Ozana s'interroge sur une probable candidature d'Alassane Ouattara après le décès de son premier ministre et dauphin. Charles Bazema lui présente ses condoléances à la Côte d'Ivoire et appelle Alassane Ouattara à rester sur sa décision de ne pas se présenter à la prochaine présidentielle. Pour lui, il y a des hommes au RHDP capables de représenter le parti aux élections. Cameroun, Marie-Paul Awa se demande pourquoi les anglophones continuent à être discriminés au Cameroun alors que plusieurs accords consacrent la protection des minorités. Merci à Alaa Kerim Lamana pour sa fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/debatbbcafrica-africaradio et sur Twitter à @debatbbcafrique. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end. Merci à vous Didier. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, c'est la tradition, en quelques secondes, une conclusion générale, s'il vous plaît.
Mais la conclusion générale, je pense que pour ce qui concerne la situation du Mali, je considère que c'est vraiment le leadership du président qui est clairement interpellé, quoi, et qu'il faut qu'il... Et je pense qu'il a le potentiel, tel que je le connais, d'apporter des réponses qui soit plus à la hauteur des revendications qui sont posées, dont lui-même reconnaît que plusieurs sont justes et légitimes.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, de cette conclusion très concise. Merci beaucoup. Liliane, on arrive à la fin de cette émission. Voilà, c'est mon avant-dernière émission avec vous. Voilà, c'est ça. Je sentais que vous allez le dire.
Il me faut beaucoup de courage pour vous annoncer ce que Francis vient de le dire. Il m'a précédé. C'est donc avec une profonde et immense tristesse que je vous annonce qu'il nous quittera bientôt. Il fera sa dernière émission avec nous la semaine prochaine. Et c'est vraiment très, très difficile. Après 8 ans passés avec vous, Francis...
D'une belle cohabitation confraternelle.
C'est sûr que viendra le moment des hommages la semaine prochaine.
Oh.
Mais
sombre
restez
hommage.
Connectés avec nous sur la page Facebook et on essaiera de lui rendre un hommage mérité. Et Francis,
oui.
C'est très dur.
Non,
vous n'imaginez pas.
Tout se passera très bien. Monsieur le Premier ministre, Souleymane Boba Imbanga aura assisté évidemment à ces au revoir, hein, à ces salutations, à ces circonstances. Voilà.
Oui, d'autant plus qu'on s'est quand même connu dans une autre vie quand je faisais du journalisme.
C'est vrai.
Africasie notamment. Donc,
oui, c'est voilà. Eh bien, oui. Je vais me mettre désormais en réserve du journalisme après quelques décennies de bons et loyaux services, monsieur le Premier ministre.
Tout à fait.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Nous étions en compagnie de Souleymane Boba Imbanga, ancien Premier ministre du Mali. Merci à notre confrère Félix Bonny, directeur éditorial du groupe Weblogi. Je rappelle, c'est un groupe constitué par une dizaine de sites d'information en ligne en Afrique de l'Ouest. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris, par Hugo Vallière, chargé de production, Didier Ladislas Lando. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition, une dernière édition avec vous, ma chère Liliane. Bon week-end à vous.